Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC. GG, 7 et match.
Dans ce GG 7 et match, pardon, on va reparler de ce qui se passe dans le département de l'Ain où la sécheresse est particulièrement forte. Et on a le maire d'une localité qui s'appelle Arbois-en-Bugey qui a décidé de prendre une mesure radicale. 8h30, 11h, 14h, 19h, pas d'eau. On coupe le robinet. Et le maire s'explique.
Nous avons trois sources. Sur les trois, il y en a une déjà tarie. Et aujourd'hui, les deux autres... une est à 50%, l'autre doit être à peu près à 60% de son débit. C'est une décision drastique qui ne se fait pas de gaieté de cœur. Il faut passer le cap. Il nous faut passer le cap. Il va falloir changer nos habitudes. Il va nous falloir revoir dans nos maisons individuelles certaines choses. Il faut absolument y arriver.
Voilà, et donc on va faire un débat avec vous, avec le pour, le contre, ceux qui disent que oui, le maire a raison, non, il a tort. On a Joël Dagosséry qui dit « Il a tort, elle se retrouve seule contre tous, seule contre le reste du monde. » Le reste du monde étant composé de Thomas Porcher et Étienne Liebig. Pour Étienne, le maire a raison, c'est à toi à donner aussi les arguments. Une minute chrono, c'est parti, Étienne.
Écoute, je suis peut-être d'une très vieille école, mais je reste absolument persuadé, et c'est ma façon de penser, que l'intérêt collectif passe avant les intérêts individuels. Ce qu'on appelle par exemple l'écologie punitive ou tout ça, c'est-à-dire cette façon de sacrifier un petit peu de son confort personnel pour le bien collectif, me paraît être une très bonne chose. Une très bonne chose d'abord pour le bien collectif, mais aussi une très bonne chose pour l'appartenance à un pays, pour l'appartenance à un groupe humain. Et effectivement, je pense que... Et le rêve aurait évidemment été que ce maire dise « Eh ben écoutez, entre 9h et 11h, vous ne prenez pas d'eau, et entre 14h30 et 19h, vous ne prenez pas d'eau. » Le rêve aurait été que ça se passe de cette façon-là. Mais on voit bien que c'est très très difficile que les gens adhèrent et acceptent des sacrifices individuels quand on leur dit « Bah, faut pas remplir vos piscines. » J'ai entendu l'autre jour qu'on a vu en Corse, par exemple, la nuit, les consommations d'eau devenir complètement folles parce qu'en fait, les gens remplissent leur piscine la nuit. C'est-à-dire que, en fait, le sens du collectif est compliqué chez nous et qu'on est obligé de...
prendre des mesures drastiques.
On est devenu tellement individualiste dans notre façon de penser que dès qu'on touche un tout petit peu à notre confort, on crie à l'écologie punitive, par exemple. Et bon, et donc on en est là. Donc oui, et on y passera tous. Hein. Je veux dire, ce qui est en train de se passer là-bas, on y arrivera tous.
Joël.
Je suis d'accord avec toi sur l'intérêt collectif, mais je crois au contraire que ce genre de mesure vient abîmer l'intérêt collectif, ou en tout cas, je veux dire, la responsabilisation de l'individu. Je crois que c'est justement à cause de cette façon de procéder que les gens sont irresponsables, parce qu'ils comptent sur le fait qu'un décideur, tout d'un coup, va régler la situation, donc par miracle. Donc là, le maire, sa décision, ça a été de couper l'eau, ou pourquoi pas une autre solution. Mais je crois que les gens peuvent adhérer. Et je ne sais pas, j'ai cherché l'information, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas si ce que le maire nous explique là, il a bien, en fait, expliqué à sa population, en fait, que nous avons trois sources et qu'il y en a une qui est déjà à plat et que nous devons faire attention. Alors, s'il vous plaît, n'ouvrez pas les robinets entre 9h, comme le disait Étienne, entre 9h et 13h, par exemple, ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ce travail a été fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis dans le non, parce que au lieu d'une mesure d'économie, moi j'ai bien peur que ça devienne ça passe pour une mesure de rétorsion. Et aussi que les gens se disent on peut ouvrir le robinet jusqu'à 8h30, alors on va prendre nos jerrycans, j'en sais rien, et puis on va remplir à outrance, comme ça on sera tranquille.
Je préférais la pédagogie,
franchement, toujours, et même si la pédagogie générale ne fonctionne pas, moi je crois aussi à l'affect. Et je crois que justement, si un maire vient, c'est une petite commune, c'est pas non plus, c'est pas Paris. Donc si un maire vient te dire, on a que trois sources ici, et il y en a une qui est à plat. Donc faites attention, sinon les deux, c'est fini. Si un maire fait ça, et même si on se donne la capacité de, bon là je vais un peu loin parce que je suis dans la technologie, mais peut-être d'avoir accès toi-même à ces informations-là de vérification, je crois qu'il y a un travail de fond à faire qui va être beaucoup plus, je pense, pérenne que ce genre de mesure qui vient infantiliser le citoyen et je pense ne pas du tout lui permettre de prendre en mesure
la gravité de la situation. Thomas Porcher.
Bah, maintenant que j'ai les deux explications, je vais être un peu entre les deux. Non mais ce qui est, on est la première chose.
De toute façon, on se rend bien compte d'une chose, c'est que les enfants gâtés de l'eau que nous avons été, peut-être que le temps est en train de, je dis bien en train de se terminer. Parce que comme disait Joël, en septembre ou en octobre, si jamais il se met à pleuvoir, tu vois, les pluies d'automne, on se dira.
C'est reparti comme
avant, quoi.
Non, mais le comportement a quand même beaucoup évolué. Déjà, maintenant, vous avez des cours à l'école de développement durable, où on vous apprend, même si parfois c'est un peu ridicule, parce qu'effectivement, on vous apprend à bien faire attention à votre robinet qui goûte, et puis à côté, il y a des gens qui remplissent des piscines, donc il y a du deux poids, deux mesures. Mais la réalité, quand je vois ça, pourquoi j'étais pour? Parce qu'effectivement, il y a des réserves qui s'épuisent. Et là, il va falloir gérer cet épuisement des réserves. Il va falloir gérer cet épuisement des réserves. Et ce que fait le maire, c'est que voilà, il impose des formes de pénurie pour mieux gérer sur la longueur ces réserves, ce qui paraît finalement logique et qui pourrait avoir lieu pour d'autres réserves, même des réserves énergétiques, de pétrole et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose que je trouvais logique. Mais après, rien ne nous assure que cette façon de gérer les réserves soit efficace, comme le dit Joël, parce qu'il peut y avoir des phénomènes de rattrapage où des gens vont surconsommer au moment où c'est permis pour remplir, faire des réserves ou remplir leur piscine, comme l'a dit Étienne. Donc on n'est pas sûr que ce soit efficace. Mais en même temps, il va falloir s'habituer à ce type de choses, parce qu'on va rentrer vraiment dans cette économie, comme j'ai dit, je l'ai répété beaucoup de fois ce matin, de pénurie. Et donc là, comment on va faire? On va pas pouvoir dire aux gens, faut continuer, ou dire aux gens, faites un peu attention, parce que visiblement, ça ne suffit pas. Donc il va falloir imposer des restrictions.
Tu sais, moi, j'ai été je pense que je suis pas le seul, je suis un intermittent, extrêmement choqué par ce qui s'est passé en Ukraine, en fait. Au début de la guerre en Ukraine, par l'invasion russe, et la façon dont immédiatement, très vite, la population ukrainienne que l'on n'imaginait pas aussi proche de sa nation, aussi ce sentiment d'appartenir à une nation différente de la nation russe, comment ils ont accepté immédiatement le sacrifice, c'est-à-dire je trouve que parce que nous avons été des enfants gâtés, pas que de l'eau, nous avons été des enfants gâtés de tout.
Oui.
Et effectivement,
de la terre,
on a une chance exceptionnelle, tempérée, etc., etc. Aujourd'hui, il y a un virage qui s'opère, pas seulement sur le plan. On a parlé tout à l'heure de la place de la France dans le monde, qui change aussi, mais et effectivement écologique, etc. Et je pense que nous allons avoir une génération de transition, et la prochaine génération arrivant aura conscience de tout ça, sera plus facile. Mais c'est incroyable quand même quand tu donnes un message comme celui-là et que des gens t'envoient « Je suis au bord de ma piscine, connard, et je t'emmerde ». Tu vois, il y a quelque chose comme ça de la réaction un peu qu'on croit est une réaction du Gaulois réfractaire. Moi, je vous emmerde. Moi, j'ai ma piscine et je bouffe ma bidoche et je t'emmerde ça parce que tu veux me priver et je me priverai. C'est tellement infantile. C'est tellement bêta. Et en même temps, les gens ont l'impression d'être dans une forme de résistance. Mais la résistance, c'est l'inverse de ça. Je rappelle quand même que la résistance pendant la guerre, c'était l'inverse de ça. Donc, faut arrêter quand même de se positionner de cette façon-là, où dès qu'on touche à ton confort personnel, et je rappelle aussi aux gens
là, c'est pas un confort personnel.
Bah, bien
là,
sûr que si, c'est un confort.
Non, l'eau, c'est pas un confort personnel, c'est un bien.
Oui, donc, mais là, tu dois sacrifier des trucs.
Mais tu dois sacrifier des trucs.
Provisoirement.
Provisoirement, mais là, il nous explique qu'il y a une source qui est à sec. Oui. Et que le niveau baisse sur les autres. On coupe le robinet pour les économiser. Mais il pleut pas. Sa solution, elle n'est pas pérenne. Les nappes phréatiques ne se remplissent pas. Donc, si tu veux, il y a un moment ou un autre. Jusqu'à quand? Les habitants disent, monsieur le maire, jusqu'à ce qu'il pleuve. Tu sais très bien que s'il pleut, il faudra qu'il y ait suffisamment de pluie pour refaire les nappes phréatiques. Donc, ça va pas se faire comme ça.
Ça, les nappes phréatiques, c'est pas un truc qu'on va décider, hein.
C'est ce que je te dis.
Pas
donc,
il
y a un moment où les habitants vont quand même dire au maire, monsieur le maire, on peut rouvrir, on fait quoi? C'est jusqu'à quand? C'est une solution d'urgence, mais qui n'est pas viable dans le temps, de toutes les manières.
Excuse-moi, quand on dit qu'il va y avoir un changement, ça veut dire qu'il y a des régions, comme dans tous les pays du monde, comme en Australie, où il y a des régions qui se sont vidées de leurs habitants. Je veux dire que là où il y avait des villes entières, parce qu'il y a eu la sécheresse et parce qu'il y a eu la désertification partout dans le monde, ça s'est vidé, à commencer par l'Arizona. Et on a des endroits qui se sont vidés littéralement de leurs habitants, et qui sont devenus des endroits désertiques. Ça existe depuis toujours dans le monde. C'est pas quelque chose de nouveau. Il se pourrait très bien
que des régions.
Mais c'est pas des endroits qui se sont aussi repeuplés.
Mais bien sûr que si. Ouais. On voit bien que le Nord va se repeupler, c'est clair.
Les restrictions sur l'eau, il y a beaucoup de pays qui ont été confrontés. Israël, depuis longtemps, a été confronté, a mis des restrictions sur l'eau. Nous, on n'a pas été habitués à ça.
Oui,
en
parce
France.
Que c'est dans une. Israël est dans une région où il a fallu faire ces restrictions.
Nous, on n'a pas eu l'habitude, mais vraiment, je pense qu'on va, dans un avenir pas si lointain, on va être forcé d'avoir un certain nombre de restrictions. Alors, peut-être pas aussi radicales que ce qu'a fait ce maire-là, mais le lavage de voitures, les piscines, toute l'eau, en fait, qui est jugée, on va dire, pas utile aux vivants. C'est-à-dire à nous, aux bêtes, etc. Et ben, il va y avoir des économies à faire, c'est obligatoire.
Est-ce qu'on ne peut pas redonner un petit peu de pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire le pouvoir de bien contrôler sa propre consommation? La dernière fois, on en parlait, tu n'as toujours pas, pour beaucoup en tout cas d'habitants, tu ne sais pas toujours ce que tu consommes réellement. Est-ce qu'on ne peut pas redonner de l'information aux gens? Est-ce qu'on peut leur redonner avant d'aller vers la punition? Pour moi, ça reste une punition. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas accès à l'information avant. Si on avait accès à une information sur ma réelle consommation d'eau, comment est-ce que je peux la réduire? Voilà, tout ça, on a besoin d'information.
Joël, c'est vrai, par exemple, aujourd'hui, on voit, il y a pas mal d'agriculteurs qui passe au sorgho, par exemple, qui abandonne le maïs et qui passe au sorgho.
Rappelons que le maïs, c'était pas une culture française.
C'est pas une culture française.
Le maïs, on s'y est mis parce que c'est devenu rentable. Avant, on cultivait pas le maïs en France.
Non, mais c'est tout de l'importation, tout, y compris la pomme de terre. Donc, on passe au sorgho parce qu'effectivement, le sorgho consomme beaucoup moins d'eau. Il est moins rentable aussi par rapport à la quantité récoltée que le maïs. Mais on voit bien qu'il y a une façon de penser qui est en train d'évoluer. Là, en ce moment, il y a 180 paysans qui passent au sorgho, mais il y en aura peut-être 2000, 3000, 5000, 20000 dans les années qui viennent. Parce que, donc c'est ça ce qui compte en réalité, c'est qu'en ce moment, on est en train d'allumer une petite mèche. On sait bien qu'il va y avoir des résistances, on sait bien, mais on sent bien aussi qu'il y a un mouvement de fond, tu vois.
Oui, mais ce que vous voulez, c'est que tout s'arrête, tout stoppe pour tout le monde. Moi, je crois pas. Par exemple, on tape sur les gens qui ont des piscines. Mais chacun, il faut regarder ce que chacun peut économiser de son côté. T'as peut-être quelqu'un qui peut pas du tout faire l'impasse sur sa piscine, mais qui peut faire l'impasse sur beaucoup d'autres choses. Et il faut arrêter de focaliser sur, oui, il remplit sa piscine, il a sa piscine, etc.
Souvent, c'est quand même cumulatif, hein.
Pendant 3 semaines. Tu vois, c'est pas la question de pas avoir de piscine. Les gens ont raison d'avoir une piscine. La France est le pays où il y a le plus de piscines dans le monde. C'est une piscine
c'est
pour
un
27
moment,
habitants.
C'est provisoire, tu t'en prends.
On dit juste là cet été parce que la France est en danger. On vous demande, tu vois, c'est pas non plus la guerre. On a demandé
sauf que le maire, c'est pas un particulier. Sauf que le maire, c'est pas un particulier que t'ailles sanctionner le particulier qui le soir en loose day refait le niveau de sa piscine parce qu'il a fait très chaud, que ça s'évapore depuis plusieurs semaines. Et encore, j'y crois pas trop parce que en général, l'eau des piscines, ça ne bouge pas. Sauf si c'est des petites piscines hors sol dans lesquelles tu as peu de quantité d'eau. Et là, tu es obligé normalement de la changer. Et encore, normalement, quand tu remplis ta piscine et que tu la traites bien, tu n'as pas besoin de renouveler l'eau. Mais pourquoi pas? Tu vas sanctionner le mec en loose day qui a lavé sa bagnole à 23h ou qui a arrosé son jardin alors qu'il ne doit pas. Mais le maire, lui, il est en charge de l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Est-ce qu'il a parlé, même si c'est une petite commune, à tout le monde en sachant qu'est-ce que ça a comme impact de couper entre telle heure et telle heure? Tu vois? Donc, ça, c'est important. Et quelle est la solution pérenne? À la rentrée, monsieur le maire, on fait quoi quand on va rouvrir le robinet? Ça, c'est important de le savoir. Parce que lui, il gère l'intérêt collectif. Il n'est pas là pour faire de la punition. C'est comme aujourd'hui le maire de Colmar qui demande à l'ensemble des habitants de venir arroser les fleurs dans les jardins publics parce qu'il n'a pas le droit. Alors que du côté de l'Alsace et de cette région de France, t'as des milliards de mètres cubes de réserves d'eau. Donc c'est pas logique, tu peux pas traiter de la même manière, si tu veux, tout le monde aujourd'hui. Un maire ne peut pas décider tout seul pour l'ensemble de ses concitoyens. Les gens ne sont pas logés à la même enseigne, ne font pas la même consommation d'eau les uns et les autres. Donc le débat est lancé. On va continuer la discussion avec vous, avec Marc qui nous appelle de l'Hérault, avec Romuald qui est du côté du Calvados, et on regarde où on en est dans la consultation. Est-ce que ce maire a raison de fermer le robinet pendant un moment donné? Non, c'est Joël qui l'emporte,
seul
contre le reste du monde.
Et c'est
attends,
normal.
Ils sont deux fois plus nombreux que toi. Hein. T'as vu ça? 68-32. Ça veut dire que on n'est pas prêt
à faire un sacrifice,
à l'interdiction, à la punition collective aujourd'hui
pour le bien collectif.
Non, allez,
On continue la discussion dans les GG. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal. Olivier Truchot.
On continue notre discussion, notre débat, notre GG 7 et match avec Joël seul face au reste du monde.
Tout à fait.
Face à Thomas Porcher et Etienne
Yévi. Et je bats tout le monde entier. Hein,
Joël Dagosséry qui tient tête, ce maire qui décide de couper l'eau de son village pour lutter contre la sécheresse. Parce qu'il dit... Ce qu'il dit, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, il faut se responsabiliser. Il faut passer par des mesures radicales. Et donc, il ferme l'eau entre 8h30 et 11h, entre 14h et 19h. On est du côté d'Arbois-en-Bugey. C'est dans l'Ain. Et c'est Marc qui veut nous en parler. Marc Delérault, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, Marc? Vous êtes dans l'équipe oui, dans l'équipe non? Il a raison, il a tort, le maire, dites-moi.
Je suis dans l'équipe non, totalement, parce que bon, déjà, je suis plombier.
Oui.
Quand vous coupez de l'eau aux particuliers, il y a, bon, mais à un moment, ils vont continuer à tirer de l'eau obligatoirement. Et donc, vous allez vider vous allez avoir un problème sur les chauffe-eau électriques, parce que vous allez faire rentrer de l'eau dedans, vous allez faire rouiller les cuves prématurément. En plus de ça, aux horaires où ils coupent, si vous prenez les personnes qui travaillent en 3-8, le gars qui rentre à 14h du boulot et qui a bossé, il arrive chez lui, il va pas pouvoir se doucher. Moi, je vis avec ma belle-mère qui a 88 ans.
Vous vous entendez bien alors, ça va?
Comment?
Vous vous entendez bien avec elle, parce que vivre avec sa belle-mère, c'est pas commun hein, quand même, hein. C'est pas courant, hein, Marc.
Non, je vis avec ma femme et ma belle-mère.
Ah bon, d'accord.
Oui, les beaux-parents, les parents et les beaux-parents, c'est normal qu'ils soient à la maison. Ça, c'est quelque chose faut arrêter de les mettre dans des mouroirs à la con. Pardon, mais moi, mais non, ça c'est. Et par contre, elle ne supporte pas de boire de l'eau très très fraîche. Donc elle vient toujours prendre son verre d'eau au robinet. Mm-hmm. Quand elle a envie de boire, parce que on a la chance qu'elle oublie pas de boire. Et donc si elle arrive et qu'il y a plus d'eau, on fait comment? Je veux dire, tout à l'heure vous parliez des piscines. On disait oui, les gens ils ont pas besoin de remplir la piscine parce que si, alors une piscine, c'était Alain Marchal qui disait ça tout à l'heure. Une piscine, quand vous avez un peu de vent et un peu de chaleur, sur une piscine qui va faire à peu près 50 mètres cubes, vous allez perdre un centimètre d'eau sur toute la hauteur.
Mmh. Bon.
Donc c'est
par jour.
Et après, si vous continuez à descendre en dessous de ça, donc quand les skimmers ils feront plus leur boulot, vous allez être obligé de traiter l'eau à outrance et voire même de la changer.
Ouais.
Donc il y a des impératifs. Après, on est en train de nous emmerder avec ça en France, de dire oui, l'eau. Mais vous savez, en Italie, ils ont des usines de désalinisation, ce qui marche sur les grands paquebots et tout. Et pourquoi nous on attend que quand vraiment la France sera dans la merde et qu'on n'aura plus de flotte, on va nous dire, ça y est, on va faire.
Alors, c'est un choix. Attendez juste, Marc, le plombier que vous êtes, vous dites que les coupures d'eau. C'est pas bon, mais même là, c'est le professionnel qui regarde. Marc ?
Oui ?
Oui, allez-y, vous répondez à ma question. Du point de vue technique et professionnel, vous qui êtes plombier, couper l'eau et rouvrir de temps en temps, c'est pas bon, faut pas faire.
Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que déjà, vous allez insuffler de l'air dans les chauffe-eau électriques. Il y a des personnes, parce que vous savez, en fonction de l'opérateur EDF électrique où c'est que vous êtes, vous avez des heures creuses à certaines périodes. Et il y a des gens qui ont programmé leur machine à laver qui va tourner de 14h à 15h. Voilà. Et ben, quand il va mettre sa machine en route, il n'aura pas de flotte. Voilà. Je veux dire, c'est à un moment, il faut...
Mais là, vous apportez la question technique et c'est...
Elle est importante,
la question technique. C'est très bien, c'est très important. Mais néanmoins, est-ce que vous pensez qu'en temps de, j'ose pas dire le mot de guerre, encore que le mot de guerre a été utilisé pour le Covid, alors pourquoi pas? Est-ce que vous pensez pas quand même que quand on est citoyen, j'utiliserai le mot citoyen, on doit pas à un moment sacrifier un certain nombre de conforts personnels au bien collectif? Vous pensez pas que c'est la base de la morale d'un pays?
Non, parce que la base de la morale de quoi? Vous allez, on vit pas tous de la même façon. Moi ici, alors
dans l'Hérault,
j'étais dans l'Hérault. Là, je suis, je loue une maison où on a un forage. La nappe phréatique ne peut pas se tarir parce que le propriétaire chez qui je suis a une grosse exploitation qui fait à peu près, qui doit faire, je sais pas, 200 hectares tout autour de la maison et qui a l'eau du Baronne et qui arrose pour les animaux, enfin pour tout, pour ses cultures. Et cette eau, elle part, elle obligatoirement, elle part dans les nappes phréatiques. Donc, ça dépend des endroits où on est. Mais après, il faut penser aussi aux gens qui vivent normalement. Et moi, enfin, moi, si demain je rentre du boulot, bon, là, c'est pas mon cas, mais je veux dire, le gars qui va rentrer du 3-8, qui fait les 3-8 et qui rentre à 4 heures, et qui se retrouve, qui arrive chez lui, qui a pas la douche pour se laver, ben moi, à sa place, je vais à la mairie.
Bah, vous avez remarqué, ouais, vous gueulez, mais vous avez remarqué que c'est coupé entre 8h30 et 11h, entre 14h et 19h, ce qui veut dire que c'est le matin quand on a besoin, de l'eau, elle est là, et quand on en a besoin, le soir aussi, elle est là, quoi, Marc. Attendez, Marc, on va écouter l'argument de Romuald aussi, qui nous appelle du Calvados. Bonjour, Romuald.
Oui, bonjour.
Vous avez eu Marc qui dit, si jamais on fait ça chez moi, si la mairie fait ça, je vais gueuler. Et vous, est-ce que vous êtes pour ou contre cette mesure?
Ah, moi, je suis plutôt pour.
Pourquoi?
Alors déjà, pour la première fois depuis 8 ans, je suis d'accord avec Étienne. Donc, il faut quand même le noter. Je vais le marquer sur le calendrier. Alors oui, effectivement, malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que l'eau est devenue un liquide précieux. Effectivement, on a vécu dans l'abondance et on a vécu comme un pays riche, où il suffisait juste d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à flot. Et aujourd'hui, quand on demande des restrictions, alors l'exemple que je viens juste d'entendre est typique de ce que dénonce Étienne Yelig. Ça veut dire que vous vous rendez compte des exemples qu'il a donné, le monsieur. La piscine qui diminue d'un centimètre. Mais franchement, est-ce que franchement c'est pas un problème de riche? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas un problème d'enfant gâté? Demain, le risque, il est plus à 10 ans comme le GIEC l'avait signalé. Hein. Aujourd'hui, on est à 10 ans en avance par rapport aux pessimistes, les prévisions les plus pessimistes du GIEC. Demain, l'eau sera vraiment une denrée rare. Ça veut dire que demain, ce que fait aujourd'hui le maire, et tous les maires le feront, mais pas de 9h à midi et de 14h à 19h, ils le feront 24h sur 24, parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Donc aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde d'égoïstes. Quand je vois qu'il y a encore des gens qui nettoient leur voiture au carwash, qui continuent de nettoyer leur voiture, alors qu'aujourd'hui, on sait que l'eau est devenue un bien qui est devenu rare.
Ça, vous avez raison, c'est paradoxal. Il y a les lavages de voitures les automatiques, on peut y aller, mais vous n'avez pas le droit de laver votre bagnole chez vous.
Fermé, hein.
Ouais, certains,
bien
ils
sûr,
ont fermé, pas partout. Ouais.
Pas
ouais.
Partout, non, parce que c'est... Alors moi, justement, je vis sur le département où Madame Borne est élue députée.
Donc Calvados.
Donc dans sa circonscription, en plus. Et je me suis interrogé sur ça. Et effectivement, il y a des endroits où les carwashs ont encore le droit d'être ouverts.
Et ça, c'est une très bonne. Je trouve que c'est une très bonne remarque parce que tu vois. Le fait qu'on va te dire oui, mais en Normandie, en ce moment, on manque pas de flotte. Oui, mais justement, est-ce que le fait d'appartenir à un pays, d'être français, justement, et le fait d'appartenir à un pays, ce serait pas justement qu'on soit tous traités un peu de la même manière, c'est-à-dire que nos amis du Sud sont en manque d'eau, ils sont obligés de faire un certain nombre de sacrifices de confort. Est-ce que c'est pas non plus au reste de la France d'assumer, tu vois, qu'on se retrouve pas dans un pays à l'italienne pendant un moment du temps de la Ligue du Nord où on disait bah ceux du Sud ils peuvent crever, nous dans le Nord on a tout ce qu'il faut, ils nous coûtent cher, c'est des cons, et parce que la distribution climatique est de relief.
Donc Romuald, vous êtes sur la ligne Étienne, c'est-à-dire vous êtes plutôt pour des mesures un peu punitives, contraignantes, quoi, en fait, c'est ça.
Mais en fait le problème c'est que aujourd'hui moi je suis contre. Enfin, c'est l'éternel débat, est-ce qu'il faut de la pédagogie ou pas. Moi, je pense que la pédagogie, c'était bon il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. Aujourd'hui, quand j'entends encore dire qu'il ne faut pas faire des barbecues dans les forêts, il ne faut pas jeter son mégot de cigarette, enfin, on le disait déjà il y a 15, 20 ans.
C'est vrai.
Il y a 15, 20 ans, on disait déjà que...
À la limite, c'est même pas besoin de le dire.
Aujourd'hui, j'ai encore entendu hier sur un plateau de télévision un pompier qui disait qu'il fallait de la pédagogie. Mais non! Aujourd'hui, celui qui sait pas qu'il faut pas jeter un mégot de cigarette dans la forêt, je suis désolé, mais c'est un crétin. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne mérite que la sanction.
Oui, d'accord, on est d'accord.
Aujourd'hui, quand on nous dit qu'il faut pas laver sa voiture, tu laves pas ta voiture chez toi, mais tu peux le faire au carwash. Non, je suis désolé, tu laves pas ta voiture, point barre. Point barre.
Non, mais
c'est pas grave si ta voiture est sale. C'est pas très grave. Tu vas survivre.
Non, mais il y a les actes comme qui sont complètement cons, comme jeter son mégot ou aller faire un barbecue en forêt. Enfin, ça te passerait même pas par la tête. Je sais pas qui fait ça. Et puis il y a des choses qui sont liées vraiment à notre mode de vie et à un changement des mentalités. Oui, oui. Et ça, vous devez accepter. Je suis désolée que ça prenne du temps.
Bien sûr.
Le changement, ça prend du temps.
Bien sûr, ça prend du temps.
Et peut-être qu'il y a certaines personnes dans notre génération
avec de la punition et de la contrainte.
Qui ont une prise de conscience plus avancée que d'autres, d'accord. Mais pour avoir le résultat que vous voulez, peut-être que ce sera mes enfants, ma fille, elle a 12 ans, je vois bien que c'est elle qui me dit, attention ça, la viande, on en a, je n'ai pas beaucoup besoin, moi je suis là à tous les repas avec ma viande, enfin j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça, et elle, non, tu sais, on n'en a pas tant besoin de ça, etc.
A-t-on le temps d'attendre les changements de comportement?
Mais,
c'est ça la vraie question. Je veux dire, si on n'a pas, enfin, si le changement de comportement, tout le monde rêverait d'un changement de comportement qui se ferait naturellement, mais là, a-t-on le temps? Et si on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Et à un moment, la contrainte.
Donc, il faut faire un tour de vis, il faut faire de la contrainte, quoi.
Bon, après, chacun y réagit à sa façon. Moi, c'est vrai que je supporte facilement la contrainte, mais je pense que si les comportements ne changent pas assez rapidement, eh ben, on va devoir.
Ils sont déjà en train de changer.
Romuald, merci, Romuald. On va donner le mot de la fin à Frédéric après Marc du côté de l'Hérault. Romuald, dans le Calvados, on va aller dans le Loir-et-Cher. C'est Frédéric qui nous appelle de ce département. Bonjour, Frédéric.
Oui, bonjour les Gégés.
Ravi de vous avoir avec nous, Frédéric. Est-ce qu'il faut passer par la contrainte comme le fait ce maire? Il a raison, oui ou non?
Bah oui, totalement. Et même il devrait faire encore plus. Parce qu'en France, on est devenu un peuple individualiste et enfantin. Après, les Français gueulent tout le temps parce qu'on paye tout le temps, Mais si on fait pas des choses comme ça, tout le monde s'en fout. À côté de chez moi, j'en ai un qui a l'arrosage automatique tous les jours sur sa pelouse. Ah, sa pelouse, elle est bien verte. Il n'y a pas de problème. Les stations de lavage, comme en parlait précédent auditeur. C'est la même chose, ça m'a fait halluciner hier avant-hier, en allant faire l'essence. Les gens nettoient leur bagnole, la mienne qui est crade depuis je ne sais combien de temps, je la nettoie même pas. Ouais. On est devenu un peuple comme ça, d'individualistes, et chacun pour sa gueule. Et on n'en a rien à foutre du voisin, non, rien à foutre de ce qui peut se passer demain. Après, oui, il faudrait que tout le monde se prenne en charge, mais ça, on sait très bien que dans notre population actuellement, c'est impossible. C'est impossible, c'est tout le monde voit le bout de son nez et tout le monde n'en a rien à foutre.
Oui, mais
on devrait tout Joël savoir, on devrait avoir, en tout cas dans ce petit village, il devrait avoir une information qui dit à partir de tant de mètres cubes, on coupe l'eau, etc. Il n'y a pas tout ça. Je suis désolée, non, on n'est pas individualiste, on n'est pas informé.
Il y a des gens qui ont des puits personnels également. Quoi taper dans ces gens-là? Il y a 3-4 voisins à côté de chez moi qui ont des puits personnels. Ils ont acheté leur maison avec un puits dans le jardin. Ça, c'est...
D'accord, c'est curieux parce que là, maintenant, vous voyez, ça devient de la jalousie. Ils ont acheté leur maison, ils ont un puits personnel. Et alors, moi, vous voyez, je préférais... Frédéric, moi, je préférais entendre le gouvernement et les sociétés qui s'occupent de l'eau nous dire quel est le plan pour faire en sorte que les centaines de milliers de kilomètres carrés aujourd'hui de tuyaux qui fuient soient rénovés. Parce que là on perd milliards de mètres cubes, Frédéric. Vous voyez? Plutôt que de me dire, le voisin, c'est un con. Comment?
Il n'a pas dit ça.
Non.
C'est arrivé il n'y a pas longtemps chez moi. J'ai perdu 800 mètres cubes.
Voilà. Moi, je préférais, vous voyez, que là-dessus.
Ça fait partie du truc, tu
vois.
Oui, mais
l'un n'empêche pas l'autre. Mais si tu veux, avant de commencer à jalouser celui qui a la piscine ou celui qui a le puits, mais l'eau, c'est un travail de l'État avec les sociétés. C'est ça, l'eau, aujourd'hui.
On peut parler des salinisations.
C'est pas de la jalousie. C'est comme un petit peu les paysans, vous parliez du maïs tout à l'heure. Si vous leur tapez pas un peu dessus, moi, en Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre-et-Loir. Mais les champs de maïs, il y en a partout. Vous vous promenez, c'est des jets d'eau qui tournent à gogo toute la journée.
C'est le plus gros consommateur de flotte, le maïs. C'était pas français. Et il y a eu aussi des primes qui ont été données pour planter du maïs.
Merci Frédéric d'avoir été vous aussi avec nous dans la discussion. Alors, est-ce que le maire a raison de couper le robinet? On va voir si ça a bougé ou pas. Ouf! Ce n'est même plus une victoire, c'est un triomphe.
À deux contre un.
Le triomphe de l'égoïsme et de l'individualisme. 70%, c'est Joël qui a gagné face à ceux qui étaient deux fois plus nombreux qu'elle.